La Palme d'Or.
Grand prix du festival.
J'ai gagné la Palme d'Or, qu'est-ce que c'est?
Les deux symboles mythiques, c'est la Croisette et les Starlight.
Culture vive.
Ah, moi je trouve ça charmant, très amusant.
Et moi je sais ce qu'on va voir, mais je me demande ce que les gens vont recevoir.
Je sais pas, il y a quelque chose que le public aime, heureusement.
Ben, c'est une émotion.
C'est l'art, l'art et communication.
Culture vive, Pascal Paradou.
L'époque des starlettes est passée, plus délurées, plus haut perchées, plus maquillées sont les jeunes filles sur la Croisette, mais l'émotion, le cinéma, la lumière en 24 images secondes font toujours la magie de Cannes. Pour cette dernière émission en direct du festival, 65e du nom, nous allons donc visiter les univers de Raymond Depardon, Sandrine Bonner et Carlos Regadas. Depardon, photographe-réalisateur, a montré sur la Croisette Journal de France, un documentaire en forme d'autoportrait où il raconte ses virées dans l'Hexagone et en Afrique. Récit très autobiographique aussi pour le Mexicain Carlos Regadas. Post Tenebras Lux peut se voir comme une histoire de famille qui tourne au drame, mais c'est surtout une œuvre d'une beauté formelle à couper le souffle et d'une extrême sensualité. J'ai rencontré Regadas dans les jardins d'un palace cannois pour parler de ce film en compétition. Rencontre aussi avec Sandrine Bonner, la comédienne passe à la réalisation avec un film sur le deuil et la consolation. Un couple perd un enfant et se retrouve 10 ans après. Rage de son absence, film émotion de la Croisette. On va aussi parler dans cette émission aussi du cinéma américain vu de Cannes avec Roslyn Hyams, sans oublier le cinéma africain avec une première ici, une projection en plein air face au palais du festival du CNA, le cinéma numérique ambulant créé par Christian Lambert. Reportage José Marinho.
Je suis passée par là et j'ai vu ça.
C'est un cinéma extérieur.
Je suis bien contente de trouver une nouvelle séance sur le chemin. Et puis le film ne trompe pas. Je pense qu'il est inscrit dans la culture africaine.
Très bonne initiative. Dehors en plus c'est bien quoi. Très original ouais. Enfin, y a plein de gens qui peuvent pas rentrer au palais. Donc aller là s'asseoir sur un petit tapis c'est super quoi.
Je suis hyper énervée parce que... je trouve que le cinéma africain n'a pas sa place. Et quand on voit à quel point c'est ouvert sur le monde, je pense qu'ils ont autant de choses à dire que les Européens, que les Asiatiques. Pourquoi ils ne seront pas à l'affiche aussi?
C'est gratuit, ça permet à tout le monde d'assister voilà, dans un espace convivial, à un cinéma en plus là pour le coup différent. On n'est plus dans les paillettes, là on est dans l'authentique. Et c'est vraiment populaire dans le bon sens du terme. Et ça donne pleinement sens à ce que doit être le cinéma.
Notre petit écran, notre petit projecteur, notre petite sono. On en profite pour montrer au public cannois vraiment comment on fait les projections en Afrique exactement avec le même matériel, la même qualité d'image, la même qualité de son. On va se mettre à 200 mètres du palais et on va faire une projection d'un film africain qui a été primé à Cannes il y a 20 ans, Tilaï, de Idrissa Ouédraogo. Tilaï, c'est une espèce de tragédie grecque, c'est un opéra filmé et j'ai vu ce film dans des conditions quasiment religieuses, silence complet de toute une population qui regardait un peu bouche bée cette histoire abominable d'un père qui vole la fiancée de son fils, qui envoie son frère le tuer. C'est un des films qui s'adresse vraiment aux populations africaines et c'est le film qu'on a le plus diffusé et avec le plus de plaisir.
Permettre à des populations enclavées, qui sont dépourvues de lieux de loisirs, de lieux culturels, de vivre la culture par le cinéma et surtout à travers leurs propres images où elles se reconnaissent, je pense que c'est très important. Je suis Ouédraogo Wenlassida, je suis l'un des membres fondateurs du Sénat Burkina, dont je suis le président et coordonnateur du réseau Sénat Afrique. Et à ce jour, c'est des milliers de projections qui ont été organisées dans les différents pays où nous existons pour des millions de spectateurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a toujours une population en demande et le besoin, il est là, il faut le combler. C'est au village, donc ça se déroule en plein air, à la place publique du village, où on essaie de recréer ce que, en Afrique, ce qu'on appelait dans le temps des soirées de contes, qui sont des soirées éducatives qui ont disparu aujourd'hui, remplacées par les moyens modernes. moderne, mais qu'on a du mal justement à trouver le pont. Donc, l'écran remplace ces morceaux de bois autour desquels on se retrouve pour compter le soir et se donner des leçons de vie.
On est 6 à être venus d'Afrique, on dort ensemble au camping, on discute. Ce qui est certain, c'est que Cannes, c'est quand même quelque chose de très riche, avec beaucoup de paillettes, et où la qualité des projections est quand même mondialement connue et tout ça. C'est ça qui est drôle, de montrer d'autres formes de diffuser du cinéma, parce qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres contrées, il y a des endroits où il n'y a pas de salle, il y a des endroits où il n'y a pas d'argent, il y a des endroits où, quand on voit une image, on est vraiment content. Et c'est important qu'il y ait de la diversité, en tout cas.
En direct de Cannes, la ville des cinémas du monde.
Je pense que tous les arts doivent se faire dans la nécessité.
Culture vive, Pascal Paradou.
Séance spéciale à Cannes avec le nouveau documentaire de Raymond Depardon, Journal de France, un film qui renvoie à la vie, aux photos et aux films de Depardon, le tout porté par une voix off, celle de sa compagne Claudine Nougaret, qui est aussi la première femme ingénieure du son en France. Dans ce nouveau film, Raymond Depardon part sur les routes pour faire des photos de la France contemporaine, mais le récit de voyage est entrecoupé d'images sorties de ses archives, soit des reportages au Chili, en Cisjordanie ou en Centrafrique. Rencontre au micro d'Elisabeth Le Quéré.
Claudine Nougaret, bonjour.
Bonjour.
Raymond Depardon, bonjour.
Bonjour.
Le début de Journal de France, c'est la voix off de Claudine Nougaret qui dit Raymond Depardon veut faire un film sur les photos et les films qui sont restés dans sa cave. Raymond Depardon, est-ce que vous avez vraiment tout gardé de vos archives?
J'ai essayé de tout garder, il y en a que je n'ai pas retrouvé, mais oui, quand même, oui, parce que je suis indépendant.
Vous gardez tout?
Oui, je garde tout, donc je garde tout.
Dit Claudine Nougaret d'un air concerné.
En fait, c'est un état d'esprit de tout garder. C'est vrai que Raymond, il garde des coupures de presse, il a des espèces de trésors comme ça. Et il a cette maraude de photographe de regarder ses planches contact. Et il a l'habitude de revenir sur ses images. Et là, ça faisait longtemps qu'il voulait revenir, comme un photographe, revenir sur ses images de cinéaste. Et j'avais pas du tout envie de faire un film nostalgique. Et j'ai voulu faire un film au présent. Et j'ai trouvé que cet itinéraire en camping-car pendant 4 ans à photographier la France, c'était quand même assez original et unique. Je me suis dit qu'il fallait laisser une trace et que par ce biais, on allait pouvoir parler au présent de ces bouts de film inédits qu'il garde précieusement dans la cave.
C'est ça, parce que le fil rouge, en fait, qui relie tous ces extraits de films, toutes ces archives,
c'est
Raymond Depardon qui part dans son minibus.
Qui photographie la
France. On se demande, même s'il ne dort pas dans son minibus.
Mais il dormait dans son minibus, bien
et
sûr.
Et est-ce que c'est plus compliqué de photographier les gens aujourd'hui que dans la France des années 60-70?
Je crois que le problème ne se pose pas dans ce terme. Alors, c'est vrai que photographier les gens, il faut... Ça dépend dans quelles circonstances, effectivement. Mais quand j'ai photographié la France, justement, j'ai fait exprès de ne pas photographier trop les gens, les portraits. Je pense que aujourd'hui, ce qui se passe en France, on a suffisamment de documents. Il y a les journaux télévisés, il y a régionaux, il y a la presse régionale. Donc, on a des témoignages des Français. Ça manque pas. Par contre, on n'avait pas trop un petit peu de leur, du lieu où ils vivaient. On ne savait pas bien, voilà, et il manquait de ça. Et c'est vrai que mon idée, c'était de photographier là où les Français vivent.
Oui, avec un tropisme très net pour les bars tabac.
Voilà, oui, oui, parce que... Alors ça, c'est mes origines de Villefranche-sur-Saône, parce qu'effectivement...
Les pâtisseries aussi.
Les pâtisseries... Non, mais elles sont restées, c'est vrai, que c'est peut-être le petit garçon que j'étais qui allait faire des commissions avec, pour sa maman avec, en vélo et qui s'arrêtait à la pâtisserie ou qui achetait les journaux. Et effectivement, Villefranche-sur-Saône, par exemple, il y a une rue nationale, il y avait 60 cafés, bar tabac. Maintenant, ça, c'est fini un peu. Bon, c'est vrai qu'aussi, c'est un territoire qui est en pleine transformation. Et moi, le fait que j'avais beaucoup voyagé, quand je revenais en France, je me disais, mais c'est insensé, quoi, c'est formidable. À la fois, ça bouge et ça bouge pas. Ça bouge parce que, heureusement, la France bouge, beaucoup plus qu'on ne le pense. D'ailleurs, la France, bon, la preuve, il y a des élections qui viennent d'avoir lieu, ça a quand même bougé ou ça va bouger. Par exemple, si on prend l'écologie, il y a énormément de transformations, les gens les voyaient. Moi, j'étais avec mon camion. À côté de moi, il y avait sans arrêt des camionnettes aussi, des panneaux solaires, de géothermie, beaucoup plus que dans les grandes villes. Donc, c'est un territoire qui est en pleine transformation. Mais c'est vrai qu'on, c'est du bric-à-brac. On rafistole, voilà, on reconstruit sur des choses anciennes qui ont appartenu à nos arrière-grands-parents. Et puis, on essaie de moderniser. Voilà, comme ici, ce bar, ici, à Cannes, voilà. Et donc, c'est vrai que je suis, dans mes éléments, dans un petit village, en région, voilà,
dans la
partout.
France provinciale.
Oui, oui, voilà, j'ai pas peur, quoi. Je me sens à l'aise.
C'est l'esprit du Garé.
C'est la France des sous-préfectures et c'est un petit peu le trajet de la ferme du Garé à l'école qu'il faisait en vélo. Et souvent, en regardant, parce qu'il a fait pas mal de ronds-points, vous disiez les bars tabac, mais il est un grand spécialiste des ronds-points en France, Raymond. Et c'est cet entre-deux. Ces lieux que l'on regarde plus, parce qu'on vit à côté, on les voit pas. Et je pense qu'en sortant du film, normalement, si on est resté jusqu'à la fin, parce que je pense que c'est une expérience assez réjouissante, on ne doit pas regarder de la même façon. Parce que ce film nous aide à regarder et à parler de la façon dont on regarde.
Et donc c'est un peu comme je suis en Afrique, je pense à Paris. Je pense à faire des films, les commissariats, les hôpitaux psychiatriques. Et puis quand je suis à Paris, effectivement, à quoi je pense ? Je pense à l'Afrique, forcément, à l'Afrique, à retourner en Afrique. Donc j'ai cette espèce de questionnement permanent. Voilà.
C'est un peu mystérieux ce qu'on a raconté du film, mais vous voyez que c'est pas que la France, quoi.
Oui. Raymond Depardon, vous qui êtes un homme de l'ombre, du silence, du désert, vous vous retrouvez à Cannes dans un univers qui est quand même très agité, très bruyant. Vous vous sentez comment ?
Oh, ça va. On a déjà fait avec Claudine, on a déjà été confronté. C'est d'ailleurs que la question est simple. Hein. Il faut que quand on fait un film, il faut qu'il soit vu par le plus de gens possible.
Cannes, c'est quand même l'endroit idéal pour le cinéma et pour dire que l'on a fait un film. Oui. Il n'y a pas de mieux.
Et vous, Claudine Nougaret, c'est un lieu que vous aimez, le Festival de Cannes ?
Moi, j'aime beaucoup le Festival de Cannes parce que c'est d'abord une période où, en France, pendant 2 semaines, on parle de cinéma. Donc pour ça, on attend toujours le Festival de Cannes avec impatience.
Raymond Depardon, dans Journal de France, on voit vraiment votre lien à l'Afrique. On vous voit en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, au Tchad avec Françoise Claustre, en Centrafrique où vous avez suivi Jean Bédel Bokassa en 68. Et puis il y a ces images extraordinaires qu'on ne connaissait pas, que vous avez filmées pendant la guerre du Biafra. On a le sentiment que l'Afrique, pour vous, est un point d'ancrage.
Oui, c'est évident que je fais que des allers-retours. Moi, en fait, j'ai jamais habité, donc j'ai jamais été un expatrié, mais j'ai à la fois, j'ai choisi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un acte volontaire, c'est-à-dire que je vais en Afrique pas pour gagner de l'argent, un petit peu pour une attirance visuelle, parce que je suis un photographe et je suis un cinéaste. Et puis, je me sens bien. Avec les Africains, je me sens bien avec les Africains. Ça passe souvent par la langue française, effectivement, mais pas toujours. Il y a toute une partie de l'Afrique. Bon, bah, je connais pas la langue. Et puis, j'ai l'impression qu'aussi j'évolue dans ce territoire. C'est-à-dire que, au départ, j'avais 18 ans. J'étais comme ça envoyé photographe. Et puis tout doucement, après, j'y retournais. Puis après, eu plaisir à emmener les gens que j'aimais. Et donc, c'est quelque chose qui évolue à chaque fois. Là, on a encore été cet hiver en Éthiopie avec Claudine. J'ai une bonne relation. Je me sens bien. Donc voilà, moi je suis là avec mes images et mes photos et mes films pour qu'il n'y ait pas trop d'appréhension pour les gens.
C'est-à-dire que si Raymond ne va pas en Afrique, il est malade. Donc
c'est aussi clair que ça.
C'est aussi clair que ça, il a vraiment une...
C'est quoi le rythme idéal? Ce serait quoi? Tous les 6 mois? Tous les ans?
Ah, tous les ans, ouais. Il faut absolument qu'il y aille tous les ans. Et c'est vrai que s'il y a des territoires que Raymond connaît bien, qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Et c'est un peu dommage parce que... On sent qu'il y a toute une génération, à la fois en Afrique et en France, qui ne vont plus échanger si ça continue comme ça. L'échange est quand même assez réduit. Et c'est vraiment dommage, je trouve.
Donc, Journal de France, un film pour voir la France et l'Afrique différemment.
Et le monde entier, oui. Parce qu'il y a
et
pas
le
que
monde entier. Claudine Nogaret, Raymond Depardon, merci beaucoup.
Chaque année, au cours de la migration, des millions d'animaux rentrent chez eux. Mais certains y arrivent mieux que d'autres.
Attendez, on n'est pas à New York.
J'ai dit, attendez, on n'est pas à New York.
Quoi?
Rien pour animaux de cirque seulement.
Mais on est des animaux de cirque.
Vous faites quoi comme numéro?
Afro-cirque, 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 zèbre-poil, zèbre-poil.
Eh ben, on a bien fait de venir.
Madagascar 3, voilà le nouveau dessin animé de DreamWorks, présenté en avant-première à Cannes avant sa sortie sur les écrans français le 6 juin. Les Américains sont présents, très présents sur la croisette cette année, Roslyn Yams.
Oui, Pascal, Cannes devient apparemment plus ouvert aux Américains avec des films grand public et pour preuve, la projection hors compétition, par exemple, de ce produit d'animation de la grosse machine américaine DreamWorks de Steven Spielberg. Mais en compétition, il y a aussi les 4 films US, donc Lawless de John Hillcoat, Killing Them Softly de Andrew Dominik et The Paperboy de Lee Daniels, aussi le film d'ouverture de Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Les 4 ont en commun de traiter des thèmes d'aujourd'hui, comme la crise économique pour certains ou la désintégration familiale pour d'autres. Il se passe aujourd'hui, mais c'est quand même en décalé aussi quelque chose qu'ils ont tous en commun, parce que l'action se situe toujours dans un passé qui est plus ou moins proche. Lawless, par exemple, se passe pendant la période de prohibition d'alcool des années 1930 aux États-Unis.
Donc, il y a beaucoup d'Américains dans la sélection officielle. Il y en a aussi dans les sélections parallèles, sans compter qu'il y a des Américains dans des productions internationales. Donc, ils sont partout.
On a l'impression vraiment qu'ils sont partout. C'est intéressant. Quand on regarde plus près, les films sont moins américains quand même qu'on ne pense. Hillcoat et Dominik sont à l'origine de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Et parmi les acteurs dans leurs films, il y a des Britanniques, Gary Oldman et Tom Hardy dans Lawless. Tilda Swinton dans Moonrise Kingdom de Wes Anderson, par exemple. Et ça se passe aussi à l'envers. Un film par le réalisateur brésilien Walter Salles se passe surtout aux États-Unis. Et un film de réalisateur canadien, David Cronenberg, Cosmopolis, sur un banquier de Wall Street. Donc aussi aux États-Unis, mais pas un réalisateur non américain.
Et le marché ? Question cannoise par excellence.
Question cannoise par excellence, en effet. Au marché, les blockbusters américains, qui ne sont pas forcément en compétition, mais en vente pure. Donc justement, une des figures clés, mais pas forcément un baromètre pour tous les Américains grands et petits, The Weinstein Company, ils disent avoir bien vendu plusieurs de leurs films cette année, dont Le Nœud du Diable, The Devil's Knot, du Canadien Atom Egoyan, ou Scary Movie 5, un genre horreur, mais parodique.
Donc, conclusion, bonne année pour les Américains à Cannes.
Oui, mais le film américain ne se résume pas uniquement au blockbuster, d'où cette importance du marché à Cannes qui permet aux films avec un budget moins important et qui cherchent des financements à l'étranger d'avoir les chances de les trouver.
Merci Roslyn Hyams. Après vous, imaginez Marilyn Monroe, Sandrine Bonner, Carlos Regadas. Rien que ça, ce sera la suite dans Culture Vive après les infos.